got to get my stuff situated up here. And while I do so, there is something I would like to say about sermons in general and sort of, well, I'll just say it. It can seem sometimes when preaching through a book of the Bible or a passage of the Bible that in a sermon one may say everything there is to say about a specific text.
Et c'est possible des fois que quand on fait des sermons ou des études dans un livre de la Bible, on dit tout ce qu'il y a à dire par rapport à ce texte.
It is helpful for you guys to realize that we are going very slowly through this letter to the Ephesians. In fact, we are going to spend the whole school year on this letter.
Donc c'est important de réaliser qu'on avance très lentement dans cette lettre aux Éphésiens. On va prendre toute l'année scolaire pour tout étudier.
However, for those of us preaching, we're not going slowly enough.
Mais pour ceux qui sont en train de dire les messages, ils ont l'impression qu'ils ne vont pas assez lentement.
There's a wealth to what Paul is saying here about Christ, about his love for us, about our dependence on him that we just don't have time to get into.
Il y a une énorme richesse dans ce que Paul dit dans cette lettre par rapport à l'amour de Dieu et à la dépendance que nous avons sur Dieu.
And I say this not as an excuse for my poor preaching, but as an encouragement for you to take time throughout the week to dig into the passages that we look at on a Sunday.
Je dis ça pour vous encourager quand vous êtes à la maison, de re-regarder les textes et d'essayer de creuser un petit peu plus quand vous pouvez le lire et passer du temps vous-même dessus.
And I'm sure that you'll come to find a wealth here in God's word that we just don't have time to get into on a Sunday.
Et je suis sûre que vous allez aussi découvrir des richesses qu'on n'a pas eu le temps de voir pendant les dimanches.
Last week, we were in Ephesians chapter 3, and we were looking at the verses right before this one, and we mentioned how Paul was in prison, and how that greatly hindered his ministry.
La semaine dernière, on voyait les versets juste avant ceux qu'on a lus aujourd'hui, et on a vu que le fait que Paul soit en prison quand il a écrit cette lettre, ça a quand même été un frein pour son ministère.
I mean, and a good example of this was Paul loved to go around preaching in different cities. Well, as a prisoner, he couldn't go around preaching in different cities.
Un bon exemple de ça, c'est que Paul aimait beaucoup voyager dans les villes différentes pour prêcher, mais quand on est prisonnier, c'est un petit peu dur de voyager.
The second thing we learned last week was that it is important for us to be faithful in the small things.
Quelque chose d'autre qu'on a vu la semaine dernière, c'est que c'est important d'être rempli de foi et d'intention quand on fait les petites choses.
And that doing a small thing for a great cause or a great person makes that small thing a really big thing.
Et faire une petite chose, mais pour une grande cause ou une grande personne, rend cette petite chose grande elle-même.
And we saw how Paul, who was in prison and couldn't do the big things he wanted to do, learned to be faithful in the small things.
Et on a vu que Paul, quand il était en prison et qu'il ne pouvait pas faire les grandes choses qu'il voulait faire, il est quand même resté rempli de foi dans ce qu'il faisait.
But what were the little things that Paul could do and Paul did do in prison?
Donc, quelles étaient les petites choses que Paul pouvait quand même faire en prison?
Well, if you look at the first verse, if you look at verse 14. Of chapter 3 of Ephesians, you'll see that Paul goes to God in prayer.
Si on regarde dans le verset 14, on voit par exemple que Paul vient à Dieu en prière.
He spends time on his knees before his father, praying for the people that he's ministered to, or that he's heard about praying for the for Christians everywhere. In fact, if he knew you existed, he would have been praying for you as well.
Il passait du temps sur ses genoux en train de prier à Dieu pour toutes les personnes qu'il connaissait, à laquelle il a entendu parler ou à qui il a prêché. Et même s'il savait que vous auriez... Enfin, s'il vous connaissait, il aurait prié pour vous aussi.
That's a way better sentiment. This ministry of prayer is one that is often overlooked by us, you know.
Ce ministère de la prière, c'est on le met de côté assez souvent.
And there's different reasons for that, but one of the big reasons is we're just too busy, aren't we? We're too busy, and that sometimes means that we're too busy to pray.
Et il peut y avoir plusieurs raisons, mais la plupart du temps, on le met de côté parce qu'on est juste trop occupé pour prier.
We prefer to be out doing things for God rather than to be at home praying to God.
On préfère sortir pour faire des choses pour Dieu au lieu de rester à la maison et prier à Dieu.
And trust me, I'm not saying this as a judgment on any of you. I'm saying this more about myself, to be honest.
Et je ne dis pas du tout ça pour faire un jugement sur n'importe qui, mais aussi sur moi-même.
I like Martin Luther's logic when it comes to busyness and prayer.
J'aime la logique de Martin Luther sur être trop occupé et la prière.
And I'm thinking of the German Martin Luther, who was one of the leaders of the Protestant Reformation in the 16th century. And it's really hard to think of a busier person than this guy, Martin Luther.
Et donc quand on parle de Martin Luther, c'est l'Allemand dans le 16e siècle qui était l'un des fondateurs de la réforme protestante.
And he's reported to have said, I have so much to do today that I better spend 3 hours in prayer.
Et ça a été dit qu'il a dit une fois qu'il avait tellement de choses à faire aujourd'hui, il faut qu'il passe 3 heures en prière.
You see, the logic of Martin Luther isn't that you got to pray for 3 hours. No, the logic is that the more you have to do, meaning the bigger the task at hand, the greater the importance of prayer.
Donc la logique de Martin Luther, c'était que quand la tâche devient grande ou importante, le besoin pour la prière aussi devient plus important.
You don't need to spend 3 hours in prayer. In fact, the prayer that we're looking at today, this evening, you could probably pray that prayer in about 2 minutes, really. But we all need to realize our need for prayer.
Donc on n'a pas besoin de passer 3 heures à prier. La prière qu'on va voir aujourd'hui, ça peut se faire en 2 minutes, mais il faut quand même prier.
And my encouragement to you this afternoon is this. Specifically, if you are part of this church and you've been thinking, I would like to serve Bodo Church, but I'm not quite sure what I can do to be of use for this church, well, there's an opening in the ministry of prayer.
Et donc ce soir, si vous vous dites que vous aimeriez bien servir l'église, mais vous savez peut-être pas trop quoi faire, nous on est ici pour vous dire que le ministère de la prière est toujours ouvert.
And to help us pray in a way that reflects Paul and his prayer, and in a way that reflects God's desires for his church, we're going to learn something of how we can pray from these verses. In Ephesians chapter 3.
Donc ce soir, on va apprendre une façon de prier à travers ces versets pour bien refléter le désir et la volonté de Dieu.
And also, at the same time, when you read someone's prayer, you see something, or when you hear someone's prayer, you see something about the about where that what that person desires, right? What that person desires. Is revealed in his prayer.
quand on entend ou qu'on lit les prières de quelqu'un d'autre, on arrive souvent à voir le désir de cette personne à travers ses prières.
And the other thing we'll do through this text is we'll see what God's desire for his church is through this inspired prayer of Paul.
Et donc à travers cette prière de Paul, on va voir le désir que Dieu a pour son église.
All right. Let's dive in. First question I want to ask you is, who is Paul praying to in this text?
La première question qu'on va demander, c'est à qui est-ce que Paul prie dans ce texte?
And for those of you who are not yet used to it, at Bodo Church, most of our questions aren't rhetorical. You can actually give an answer, right? And we don't.
Donc, pour ceux qui sont ici pour la première fois, la plupart des questions qu'on demande ne sont pas rhétoriques. Vous pouvez répondre si vous avez les réponses.
So it's helpful to have the text in front of you. Or, you know, some people have great memories. You might remember what you read. I'm not one of those. So who does Paul pray to?
Donc, à qui est-ce que Paul prie?
To? To God. Ooh, that's a good answer. But sorry, I don't.
Donc la réponse était à Dieu.
And it is the right answer, right? It is a good answer. It's the right answer. But isn't Paul a bit more specific than just saying, "I'm praying, I kneel before God"?
Donc c'est une bonne réponse, mais est-ce que il n'y a pas une réponse un peu plus précise dans le texte?
To the Father. Now God is our Father. That's why that's the right answer, and it's a good answer. And I'm not in any way disqualifying your answer. But I think it's important that Paul, to recognize that Paul, when he comes before God to pray, he has the Father in mind.
Donc là, pour le précisément, Paul, il s'adresse à Dieu comme le Père. Et donc c'est important de voir que quand Paul se met à genoux pour prier, il a le Père en tête.
And he says, for this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name.
Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom.
Who you go to for help in life speaks a lot about your relationship with that person.
La personne à qui on va quand on a besoin d'aide dans la vie dit beaucoup de choses sur cette personne.
In fact, sometimes the fact that you go to someone for help or to speak to someone for help speaks volumes about your relationship to them. And to help us picture what I'm saying, I have a confession to make.
Donc le fait d'aller vers une personne quand on a besoin d'aide, ça peut dire beaucoup en fait sur notre relation avec cette personne. Et donc pour illustrer ça, Sylvain a une confession.
Here's my confession. I am not a morning person. I'm not a morning person. If I could go to bed late and wake up late, I would do that every day.
Donc Sylvain, il est pas du matin, pas du tout. Donc s'il pouvait aller au lit tard et se réveiller tard, il le ferait ça tous les jours.
The problem is that when I was in high school, I went to high school in the States. School started really early. If I remember correctly, I think we started at 7:20 in the morning. Thank you.
Donc quand il était au lycée aux États-Unis, il commençait super tôt le matin à 7h20 du matin.
And our parents didn't drive us to school usually. We had to take a bus, you know, one of those yellow buses that you see on TV. We had to take one of those to school. And our bus came to right in front of our house at 6:30 in the morning.
Donc pour aller à l'école, il devait prendre un bus, un de ces bus jaunes comme on voit à la télé, et le bus venait devant chez eux à 6h30.
Okay, I'm curious. What time do you start high school? What time do you start school in France when you're lycée? Oh, you guys don't know the blessing of it.
Donc en France, la plupart du temps, au lycée, le plus tôt, c'est autour de 8h.
So what would happen is because I'm not a morning person, well, I would miss the bus. Sometimes I would miss the bus.
Et donc puisque Sylvain il est pas trop du matin, des fois, il ratait le bus le matin.
Well, I didn't say often, I said sometimes.
Okay. des fois.
But when that happened, it meant that I needed to go ask my very sick dad to wake up and drag me to school.
Et donc quand ça se passait, il devait aller réveiller son père qui était endormi pour que lui il le conduise à l'école.
And let me tell you, I did not want to wake up my dad to ask him to bring me to school. I didn't want to wake him up to tell him that I failed in my responsibility of waking up on time and that I needed his help to get to school.
Mais crois-moi, il voulait pas du tout réveiller son père le matin et lui dire qu'il avait
échoué.
Il avait échoué ses responsabilités de se réveiller assez tôt et de prendre le bus le matin.
Sometimes we are like this when it comes to praying before God.
Des fois, on est comme ça quand on, par rapport à la prière à Dieu.
See, sometimes I think we're too scared to ask our holy and righteous God for help.
Des fois, on a trop peur de demander de l'aide au Dieu saint et juste.
We might feel like there's a failing on our part when we come before God in prayer. We might feel like God is disappointed that he needs that we need his help.
Des fois, on peut penser que c'est notre propre faute qu'on vient à lui en prière et qu'on a échoué à quelque chose.
But we need to remember that God is our Father.
Mais il faut se souvenir que Dieu c'est notre Père.
And he's a father unlike any other.
Et c'est un père vraiment pas comme les autres.
See, all of our fathers that are on earth, and I'm sorry for your dad here, I'm not singling you out specifically, particularly because I'm not yet a father, so who am I to judge? But when compared to God our Father, the fathers we have pale in comparison.
Et donc je ne veux pas du tout viser les pères qui sont dans la salle aujourd'hui ou même dans le monde parce que ni lui ni moi sommes un père, donc on ne peut pas vraiment juger. Mais Dieu c'est un père comme, tous les pères sur terre ne pallient sans comparaison à Dieu.
See, and our Father loves us. God, our Father, loves us in a way that is incomprehensible. In fact, this whole prayer, part of it is asking for us to come to grips with that love, isn't it?
Parce que Dieu, le Père, il nous aime d'une façon qui est tellement incompréhensible pour nous.
He's always accessible.
Il est toujours accessible pour nous.
He's generously patient.
Il est patient, sa passion, il a une patience généreuse.
He's excessively kind.
Il est excessivement gentil.
He is always faithful to his promises.
Il est toujours fidèle à ses promesses.
He is surprisingly wise.
Sa sagesse est surprenante.
And he is your father, and you can come to him in prayer always.
Et il est votre père, et vous pouvez venir à lui en prière tout le temps.
See, sometimes we pray for our loved ones as if we need to convince God to love them just as much as we do, right?
Des fois, on prie par rapport pour ceux qu'on aime, comme si on devait convaincre Dieu de les aimer autant que nous on les aime.
But guess what? He's their father too, and he loves them more than we could ever love them.
Mais il est leur père aussi, et il les aime plus que nous on pourrait jamais les aimer.
Paul is praying for his father. But have you noticed how Paul prays? How does he pray? What is the posture that he takes when he prays?
Est-ce que vous avez vu comment est-ce que Paul prie? Quelle est sa posture?
Remember, these aren't rhetorical questions.
Ce ne sont pas des questions rhétoriques, donc vous pouvez répondre si vous voulez.
Supplicating.
All right, supplicating.
En supplication.
Yeah, he's asking for something. Yeah.
Il demande quelque chose.
And he's asking for something on his knees. He says, "For this reason, I kneel before the Father."
Il est à genoux.
Now, I'm not going to spend too long on this point, but I think it's helpful for us to recognize this posture in prayer.
Donc ça peut nous aider ce soir à reconnaître cette posture de prière.
And I don't think Paul is always on his knees. The Bible speaks of other stances people take when praying, sometimes standing up, sometimes completely laying down on the ground, sometimes hands in the air, sometimes hands aside, but you get the picture.
Et donc c'est pas la seule façon que Paul ou quelqu'un d'autre prie. Il ne prie pas seulement à genoux. La Bible des fois dit que les personnes sont juste debout ou complètement à terre. Des fois les mains en l'air. Il y a plein de postures différentes.
But kneeling is helpful because it signifies a specific posture of our own heart. Okay, I'll go there.
Mais être à genoux, ça montre en fait notre posture, la posture qu'on a dans notre cœur.
Right. Being on your knees, it symbolizes humility, right? You don't just kneel before anyone, do you? In fact, in our culture, we rarely. Well, that's what you know. Actually, we do kneel a bit more than I had imagined, but not always in the same. Yeah, but in our culture, we don't kneel all that often, do we? Because it's a position of it signifies humility.
Quand on est à genoux, ça symbolise vraiment l'humilité, et ça se fait pas trop de nos jours dans notre culture de se mettre à genoux, mais ça montre vraiment qu'on est humble devant cette personne.
It signifies reverence, kneeling before God, before our Father. You know, we can imagine someone kneeling before the Queen. Potentially, even though we don't necessarily do that nowadays. But it shows the importance of the person you're kneeling before.
Et ça montre une révérence, comme quand on peut potentiellement se mettre à genoux devant une reine, même si on ne le fait pas trop de nos jours, ça montre l'importance de l'autre personne.
And it also signifies a certain intentionality on the part of Paul. Because when you're kneeling before God and before our Father in prayer, you can't do anything else.
Et ça montre quand même une intentionnalité aussi, parce que quand on est à genoux devant notre Père, le Dieu, on ne peut pas faire autre chose à part prier.
I don't know about you, but I am guilty of multitasking prayers.
Et je sais pas pour vous, mais moi je suis souvent autre chose pendant que je prie.
Yeah, I use the word guilty, but actually that's a wrong word to use because it assumes that it's wrong. There's nothing wrong about praying while doing other things. That's wonderful. But I think here we have an argument for setting aside time to go to God, our Father, in prayer.
Donc c'est pas une mauvaise chose de faire quelque chose d'autre pendant qu'on prie, mais il y a quand même une intentionnalité quand on met du temps de côté juste pour Dieu, pour prier à lui.
Sometimes we are prayers of Christ. We only pray in response to crisis.
Des fois, on prie seulement en réponse à des crises.
Right, we have this sort of responsive prayer life.
On a cette vie de prière qui est plus en réponse à des choses qui se passent.
Here, the argument is for constant prayer, not just responsive prayer.
Et donc ici, on voit un argument pour une prière constante et pas seulement en réponse à quelque chose.
And so we want to come before God humbly. Humbly because we know that we need God's help. It's not the other way around. Sometimes we pray as if we're trying to convince an unwilling father to do something he doesn't want to do.
Et donc on doit prier avec humilité parce qu'on sait qu'on a besoin de Dieu. Et des fois on peut prier dans une posture où on pense qu'on est en train de convaincre Dieu de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire.
When really, what we're doing is we're recognizing that God is going to do, or we're asking God to do something He's already promised to do.
Mais la plupart du temps, on demande à Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà promis qu'il allait faire.
We're reverence. We realize that the Father, to whom we pray is everyone's father. He's the father of the heavenly and the earthly families.
Et donc quand on est en révérence face à Dieu, on reconnaît qu'il est le père de tout le monde, dans le monde.
And we do it constantly. Now, what do we pray? So we've talked about who we pray to, how we pray. Now, the big, really, where I want to spend more time on is on the what do we pray.
Et donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on prie. On a vu à qui on prie et on a vu comment est-ce qu'on prie. Et donc maintenant, on va voir la plus grosse partie qui est qu'est-ce qu'on prie.
And I'll read, just reread a couple of these verses, and I'm reading from verse 16 down to verse 19.
Donc on va relire quelques-uns des versets du 16 au 19.
I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his spirit in your inner being. So that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God.
Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis dans toute la plénitude de Dieu.
There's a lot going on here, isn't there?
Donc il y a beaucoup de choses dans ce passage.
In fact, Paul speaks with such grand language that it's sort of my mind just kind of thinks, well, I can't go there. I can't imagine what Paul is getting at most of the time.
Des fois, Paul, il dit un langage assez grandiose, et donc on peut se dire qu'on n'arrive pas vraiment, enfin, on ne sait pas quoi faire avec.
But the core of what Paul is praying for is power.
Is what, sorry?
Power, sorry. I should have said that power for sure.
Mais le centre de ce que Paul essaye de dire, c'est le pouvoir.
See, Paul is praying that our Father may give us strength.
Paul, il est en train de prier que notre Père nous donne la force.
Now, obviously, he's not thinking, well, maybe not obviously, but he's not thinking of physical strength. He's not asking for a workout.
Et donc, il ne parle pas de la force physique.
But Paul is thinking about spiritual strength. Look at it in verse 16. He says, I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his spirit in your inner being.
Mais il prie pour la force, de la fortitude spirituelle. Dans le verset 16, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur.
See, if we want to model Paul's prayer, we need to realize that this is what he's praying for. And this is what we, therefore, should be praying for. Ooh, I'm using for way too often. This is what should be in our prayers for one another.
Et donc, si on veut modéliser les prières de Paul, il faut qu'on réalise que c'est de ça que Paul prie. Et donc, c'est ces choses que nous aussi, on doit prier pour les uns les autres.
But what does it mean to be strengthened with power through the Spirit in our inner being? That's a lot of language that in Western culture we don't really use anymore.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être puissamment fortifié, conformément à la richesse de sa gloire, par son esprit, dans son être intérieur?
See, I think Paul has passages like well, I will read it, like Ezekiel 36 in mind. I'm thinking of Ezekiel 36 and specifically verses 26 and 27. And I will read them out so you know, no need to struggle to find it.
Donc, on va voir un passage dans Ézéchiel, chapitre 36,
versets 26 à 27. See, Paul, not Paul, Ezekiel says here, well, God says here, really, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws.
Ézéchiel dit, Dieu dit dans ce passage, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles.
When Paul talks about his inner being, I think the best equivalent we might use today is our hearts.
Quand Paul parle de son être intérieur, c'est un équivalent de notre cœur.
And when I say hearts, I don't mean hearts as the center of emotions, though that is true.
Et quand on parle de notre cœur, ce n'est pas comme le centre de nos émotions.
I have a bit of a broader definition in mind. I mean hearts as in that which includes our desires, our personality, our character, our emotions and feelings, our purposes and goals. All that is within us that makes us us.
Et donc quand on parle du cœur dans ce contexte, c'est un petit peu plus large et on parle aussi de nos désirs, de notre personnalité, notre caractère, nos émotions, et donc c'est tout ce qui fait de nous nous-mêmes.
And we have a heart problem, we must recognize. Our hearts aren't what they should be.
Et nous, on a un problème avec notre cœur. Et nos cœurs ne sont pas ce qu'ils devraient être.
Thus the passage in Ezekiel, which talks about God turning our stony, hardened hearts that don't work as they should, to a heart of flesh. That does work as it should, that does love God and love others as it should.
Mais c'est ce que dit Ézéchiel. Il parle de notre cœur de pierre qui ne fait pas, qui est dur et qui ne fait pas ce qu'il devrait faire. Et Dieu peut le changer en un cœur de chair qui peut l'aimer et qui fait ce qu'il est censé faire.
And that's what we need God to do in our hearts. And that's what Paul is praying for. He's praying that our hearts be transformed by God's power through His Spirit.
Et c'est ça qu'on devrait prier, c'est que Dieu transforme nos cœurs et notre esprit pour que ça devienne un cœur de chair.
And so we're praying to be strengthened, and we're praying to be strengthened for three things.
Et donc c'est ça qu'on prie, c'est on prie pour être fortifié dans trois choses.
And I'll just list them out. I wanted to list them out again, but I'll list them out now because it'll be more helpful. Paul's praying that we're strengthened together for Christ to be visible within us. That's the first one we'll talk about.
Donc, on prie pour que Dieu nous fortifie ensemble pour que Christ soit visible entre nous.
And then we'll talk about Paul, God strengthening us together to embrace with our head and with our hearts Christ's immense love for us.
On prie pour que Dieu nous fortifie pour qu'on réalise dans notre tête et dans notre cœur l'amour immense de Dieu pour nous.
And then finally, that we're strengthened together for growth and spiritual maturity.
Et enfin, qu'il nous fortifie ensemble pour pour grandir spirituellement.
Now, these three things are distinct but not separate. They're distinct but not separate. They all run along on one another, all right, in ways that we can't necessarily fathom.
Ces trois choses sont distinctes, mais elles sont inséparables.
So the first reason Paul is asking us to be strengthened is found in verse 17. He says, I pray that out of his... And I'm really not sure how they do the verses here, because they seem to put verse numbers in all the weird places, but... He says, I pray that out of his glorious riches, God may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith.
Et donc, versets 16 et 17, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi.
Some people, when they talk about conversion, when they talk about becoming a Christian, when they talk about being in Christ, they use the phrase Christ moving in your hearts. Moving into your hearts. That makes it more clear.
Quand certains parlent de la de leur conversion, ou quand ils sont venus à Jésus, ils disent que Jésus est venu habiter leur cœur.
And though that's a bit of a vague image, I think it's a very helpful image for us to understand what it means for Christ to dwell in our hearts through faith.
Et ça peut sembler un peu vague, mais c'est très utile pour comprendre que Jésus peut habiter en nous par la foi.
All of you have moved to Bordeaux somehow. Right? I don't think anyone here was actually born in... Oh, maybe some people were born in this city. But not many of us were born here. Bernard, tu es né à Bordeaux? Vous êtes né à Bordeaux? Ou...
Yes.
Bernard, qui est le seul? He might be the only one of us born here. But the rest of us, we had to move here, didn't we?
Donc tout le monde ici dans la salle a déménagé à Bordeaux, à part Bernard, qui est né ici. Mais la plupart d'entre nous, on a dû déménager et venir ici.
Some of you moved recently, and this is really fresh. Some of you moved here a long time ago. And you will all have realized that moving is a process. Moving to a new city involves a process.
Et donc certains ont emménagé assez récemment, et donc le processus est toujours assez frais dans la tête. Mais en fait, le déménagement, c'est quand même assez long, et c'est un processus.
And I've noticed that in Bordeaux, usually three things happen. First, you move into an Airbnb, right?
Et à Bordeaux, la plupart du temps, il y a trois choses qui se passent. D'abord, on emménage dans un Airbnb.
You stay there for a couple weeks or a couple months while you actually look for a place to rent because it's so hard to find a place to rent here.
Et on habite dans un Airbnb pendant quelques semaines ou quelques mois en essayant de trouver un autre appartement parce que c'est vraiment difficile de trouver quelque part à louer.
Then you rent for a while.
Et après, on loue pendant un moment.
And if you really, really want to stay, you end up buying an apartment or a home here.
Et si on veut vraiment, vraiment rester ici, on peut acheter une maison ou un appartement.
But when you're in an Airbnb, you're not really home.
Mais quand on est dans le Airbnb au début, on n'est pas vraiment à la maison.
See, you're not gonna unpack. You know, so you are gonna unpack your bag. Maybe, but you're not going to redecorate the place. You're not going to renovate the kitchen if you don't like what it, you know, if you don't like the setup. And if you're a bit like me, you won't even fully unpack your bags.
Et dans l'Airbnb, on va pas, on n'est pas vraiment chez soi parce qu'on va pas rénover, on va pas redécorer la maison. Et si vous êtes comme Sylvain, vous allez peut-être même pas tout déballer de vos valises.
Now, when you're renting, you're going to settle in a bit more. You are going to redecorate, aren't you? You are going to move some bits around, and you might even repaint a wall or two. But you're not going to renovate.
Mais quand on loue, là, on va redécorer, peut-être même peindre un mur, mais on va pas rénover.
But when you buy, the place is finally yours. You can do what you want with it. You're going to knock down a few walls to make a bigger living room. You're going to redo the kitchen so that it fits your particular cooking style, and you're going to put in a massive bathtub to take a glorious bath.
Mais quand on l'achète, là, on peut complètement rénover à notre goût. On enlève un mur pour avoir un grand salon, ou on refait complètement la cuisine, ou on achète un énorme bain pour avoir des bons bains.
My point is this, when Christ moves into your heart, well, he's not renting out an Airbnb, and he's not renting it as a locataire. He's moving in.
Ce qu'on essaie de dire, c'est que Jésus, il n'est pas en train d'être en vous comme un Airbnb ou comme une location. Lui, il est venu, il a déménagé, il a acheté une maison en vous.
He's dwelling in you. He's staying there forever. You are His. He's bought you with His blood. And He's not going to move out.
Jésus, il est vraiment en vous et il va plus jamais partir. Il vous a acheté avec son propre sang et donc il va rester à jamais.
But I'm sorry to say we aren't exactly mansions. We need a renovation. Don't worry, our hearts need a renovation. And that's what He's going to do.
Mais nous, on n'est pas non plus un beau château. On a vraiment besoin de rénovation. Et c'est ça qu'il va faire.
He's going to work in our hearts so that our desires reflect His. So our love reflects His love.
Il va travailler en nous pour que nos désirs et notre amour reflètent ses désirs et son amour.
But just like the process of renovating a house, that takes time and it takes power. You need the strength to do that sort of thing, and that's why we pray that God may strengthen us so that Christ may be visibly seen in our hearts.
Mais tout comme les rénovations, ça peut prendre du temps et de la force, et c'est pour ça qu'on prie pour qu'il nous fortifie, pour que notre vie se transforme petit à petit pour refléter sa gloire.
The second thing Paul prays for is that together we may have the power to grasp the immensity of Christ's love. Let's read that in the rest of verse 17 and 18.
La deuxième chose, c'est qu'on peut prier pour qu'il nous fortifie, pour qu'on comprenne vraiment l'immensité de son amour pour nous.
And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. And to know this love that surpasses knowing, that surpasses knowledge.
Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu.
Now, why does Paul need to pray for such power to grasp the love of Christ?
Donc, pourquoi est-ce que Paul a besoin de prier qu'on soit fortifié pour être capable de comprendre l'amour de Dieu pour nous?
One of the more obvious responses to that is, well, as we read at the end of verse. Well, in the beginning of verse 19, that the love of Christ is unknowing. It's unknowable. It's unknowing. It's unknowable. It is very knowing, but it is unknowable. Sorry, I'll let you translate that.
Et donc la première raison qu'on peut voir dans le verset 19, c'est que cet amour, en fait, surpasse toute connaissance.
But the second thing is, and we don't get this until chapter 6, but Paul's aware that there is the enemy of God who is at work trying to get us to misunderstand Christ's love.
La deuxième raison qu'on ne va voir que dans le chapitre 6, c'est que l'ennemi de Christ travaille pour que nous, on mécomprend l'amour de Dieu.
The devil is at work getting us to have certain misconceptions about Christ's love for us.
Le diable travaille pour que nous on comprenne mal l'amour de Dieu pour nous.
And the third thing is that we love how we are loved. Right? Our love for others reflects the love people have poured into us. And so if we are going to love others as we should, we must recognize and learn from Christ's love for us.
Et la troisième chose, c'est que nous, on aime la façon qu'on aime. Et donc, si on veut aimer les autres personnes de la bonne manière, il faut reconnaître l'amour que Jésus a pour nous.
So there are three misconceptions of Christ's love that Paul tackles in his prayer that I'm going to mention very briefly, actually. Because I think it's important, but we don't have all that much time left.
Donc, on va voir trois malentendus par rapport à Christ dans ce passage, rapidement.
Yeah. Yeah. The first is that we imagine our experience of Christ's love to come in intense, ecstatic bursts of experience.
La première chose, c'est qu'on s'attend pour que l'amour de Christ vienne à des moments sporadiques et très intenses.
In fact, there are whole movements within the evangelical church that encourage us searching for such experiences.
Même il y a des mouvements entiers qui encouragent les chrétiens à chercher ces moments intenses.
One theologian mentions a time when he felt that he was hugged by God.
Un théologien parle d'un moment où il avait l'impression que Dieu lui donnait un câlin.
And my point isn't to say that that's wrong and that's false. There are moments of intense emotional experience, of intensity that we might experience with God, and specifically of God's love.
Et ce n'est pas faux ou mauvais, parce qu'il y a des moments comme ça où on ressent un amour intense de Dieu.
But look what Paul says. He says, I pray that you, being rooted and established in love.
Mais Paul, il dit, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour.
You see, that's his hope for the Christian, that our experience of Christ's love might be more than just erratic, intense experiences, though those may be good.
Et donc l'espoir de Paul, c'est que notre expérience de ou notre sentiment de l'amour de Dieu soit plus que seulement des moments prédéfinis et intenses.
And that theologian that experienced God's hug reflected on this passage and said essentially that that experience counted as nothing compared to being rooted and founded in God's love, in Christ's love.
Et donc ces moments où on ressent très intensément par exemple un câlin de Dieu, ce n'est rien comparé à le sentiment d'être enraciné dans l'amour de Dieu.
And we can be rooted and brought up in God's love, but it is a bit more subtle than emotional, intense moments.
Et on peut être enraciné dans l'amour de Dieu, mais c'est plus subtil que des moments intenses précis.
It means that everything you see and experience in your life is filtered through the knowledge, not the sort of head knowledge, but the sort of head-heart knowledge of God's love for you, whether it's suffering or sorrow or joyful experiences, you see them through the lens of God's love.
Et ça veut dire que tout ce qu'on vit ou tout ce qu'on ressent dans notre vie passe par le filtre qui est l'amour de Dieu, que ce soit des choses positives ou négatives, on doit le voir à travers le filtre de l'amour de Jésus.
And this is important to come to grips with, because just like a tree or building, the tree only grows high and the building can only be built high if the foundations and the roots are deep.
Et c'est important parce que les arbres ou les bâtiments, ils ne peuvent que grandir grandir que s'ils ont une bonne fondation ou des bonnes racines.
Likewise for the Christian, we can only grow in maturity if we are deeply rooted in Christ's love.
Et c'est la même chose pour les chrétiens, on ne peut que grandir dans notre foi que si on a des bonnes racines dans l'amour de Jésus.
The second misconception is that sometimes we understand that experiencing Christ's love is a individual experience. We see it as an individual pursuit or an individual experience.
Un autre malentendu qu'on peut avoir, c'est que on peut penser que avoir l'expérience de l'amour de Jésus, c'est une expérience individuelle.
We're tempted, and I know I'm tempted, to think that if I can only go to the mountains, if I can go down to the Pyrenees and be alone in nature, then I can finally experience something beautiful and deep about Christ's love for me.
On peut se dire, si seulement je pouvais aller dans les Pyrénées et aller dans une grotte quelque part et être tout seul, je peux enfin avoir l'expérience de l'amour de Jésus.
Look what Paul says. He says, and I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. It's really good.
Ouais, et dans le verset 18, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ.
You see, Paul will probably tell me that Sivan alone in the Pyrenees mountains trying to understand God's love, well, it's not going to work. It's not going to work as well as I would hope.
Et donc Paul pourrait dire, ben, Sylvain, tout seul dans la montagne, qui essaye de chercher l'amour de Dieu sans personne d'autre, et ça ne va pas marcher.
There are many things that I can grasp alone in the mountains. Maybe God's power, maybe something of His glory, maybe something of His beauty. But to understand Christ's love, I need other Christians.
Et c'est possible que tout seul dans la montagne, il puisse comprendre d'autres choses par rapport à Dieu, comme sa puissance, sa force, sa gloire. Mais la seule façon qu'il peut vraiment comprendre l'amour de Jésus, c'est avec d'autres chrétiens.
And maybe to flip the coin on the other side, this means that as a church, part of our goals should be deepening our knowledge of Christ's love.
Donc ça veut dire que en tant qu'église, un de nos buts serait de renforcer notre connaissance de l'amour de Jésus.
And that's what we do often on a Sunday as we worship Him. We're trying to come to grips with Christ's love for us. And when we do that, we can then love and know one another better as well.
Et c'est ce qu'on fait tous les dimanches quand on loue Jésus ensemble et quand on passe ce moment ensemble, ça nous aide à comprendre plus l'amour de Jésus et ça nous aide ensuite à pouvoir nous aimer les uns les autres.
And then thirdly, the third misconception we have is the size. It's dealing with the size of Christ's love.
Et le troisième malentendu, mécompréhension, c'est par rapport à la taille de l'amour de Jésus.
What I mean by this is we just don't know. We just forget how big Christ's love for us is.
Et le truc, c'est qu'on oublie, en fait. On oublie et on ne sait pas vraiment juste à quelle est la grandeur réelle de l'amour de Jésus.
So we kind of get... Oh, I think we can believe He loves us when we feel particularly lovable, right? But when we see some of the ugliness of our hearts, then we think, well, no, Christ cannot love someone like me.
C'est facile de comprendre l'amour de Jésus pour nous quand on sent qu'on est aimable. Mais quand on voit qu'à des moments où notre cœur est vraiment moche et méchant, on se dit, mais c'est pas possible qu'il peut m'aimer comme ça.
But that's not Christ's love for us. He doesn't love you because you're lovable. He loves you because He does.
Mais c'est pas du tout ça en fait. Jésus, il nous aime pas parce qu'on est aimable. Il nous aime juste parce qu'il nous aime en fait.
In fact, you could argue that Christ's love for you is what makes you lovable. And understanding His love for you is what little by little starts to transform your heart to make you more and more like Him, as we said before.
Et en fait, c'est l'amour de Jésus qui nous rend aimables. Et c'est son amour qui transforme notre cœur pour devenir une personne de plus en plus aimable.
And I tried to come up with a picture to help us grasp the size of Christ's love, but I realized, well, it's his point, isn't it? That's Paul's point. There is no picture. Some songs we'll sing will talk about Christ's love as if it's an ocean. But an ocean pales in comparison to the size of Christ's love.
Donc j'ai essayé de penser à une image qui pourrait illustrer la grandeur de l'amour de Christ, mais c'est ça le but en fait. C'est incompréhensible l'immensité de son amour. On essaie dans quelques chansons de le décrire comme un océan très vaste, mais même ça, c'est ça pâlit en comparaison.
And as a church, we must wrestle together with Christ's love, with its. Yeah, I'll go there. We need to wrestle with its width, right? There's no one that Christ isn't capable of loving, as you've said before.
En tant qu'Église, il faut que nous, on lutte avec la profondeur de l'amour de Jésus.
We need to wrestle with its length, right? It's an everlasting love. He won't love you for 5 minutes and then stop. He won't love you for 5 days and then stop. He won't love you for 5 weeks and then stop, or 5 years. His love for you has no end.
Et il faut qu'on lutte avec la longueur de l'amour de Jésus. Ça ne va pas s'arrêter dans quelques jours, dans quelques mois ou même dans quelques années. Ça va durer pour l'éternité.
You could even say he'd go the distance for you.
Ça, il peut faire la distance pour vous.
We need to wrestle with Christ, with the height of Christ's love. It is exalting. Christ's love lifts us up into the heavens.
Il faut qu'on lutte avec la hauteur de l'amour de Jésus parce que cet amour nous fait grandir et nous fait grandir.
In French, it would be.
Nous fait monter.
Oui, nous fait monter.
Nous redresse.
Ouais. Nous élève. Nous élève.
Nous élève.
Nous élève. Yes, there it is.
Thank La hauteur de l'amour de Jésus nous élève.
Nous élève. Paul has mentioned how in Christ we're seated in the heavenly realms, and then finally we need to wrestle with its depth. There's no hole too big that Christ can't come down to get you out of it.
Et enfin, il faut qu'on lutte avec la profondeur de l'amour de Jésus, parce qu'il n'y a pas de trop profond ou trop grand. Pour que Jésus ne peut pas descendre à nous pour nous aider et nous aider.
And so it's us praying for power to be strengthened so that we can come to grasp with Christ's love and so that we can struggle against these three misconceptions. And finally, verse 19, Paul prays that you may be filled to the measure of all the fullness of God.
Et donc ça c'est tout, c'est ce qu'on doit prier pour qu'on puisse lutter avec le grand amour de Jésus. Et enfin dans le verset 19, il prie pour que nous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu.
I'll be honest with you, this is something that I still am wrestling to grasp the meaning of. Well, I struggle to understand what Paul means here. But I think the closest we can come to working this out is Paul's thinking of our maturity as Christians.
Et donc c'est encore un petit peu difficile à comprendre et à savoir exactement ce que Paul voulait dire, mais on peut se dire que il parle de la maturité des chrétiens dans leur foi.
He's praying for power for us to grow in maturity, for us to be what God wants us to be, in a sense, which reflects Him and His love. If we're going to love others, we need to wrestle with the love of Christ.
Donc il prie pour que nous soyons fortifiés, pour qu'on puisse devenir matures et refléter Jésus et son amour pour nous.
So, let's pray that God strengthens us by His Spirit, that He strengthens us together for Christ to be visible within us.
On prions pour qu'il nous fortifie dans notre esprit, pour qu'il nous fortifie et que Jésus soit visible à travers nous.
Yeah, that we're strengthened together to embrace with our head and heart Christ's love for us.
On prie pour qu'il nous fortifie, pour qu'on accepte avec notre tête et notre cœur, l'amour immense que Jésus a pour nous.
And then we'll pray to be strengthened together for growth and spiritual maturity. This is something you. Oh, sorry, translate.
Et on prie pour qu'il nous fortifie et qu'on devienne mature et qu'on grandit.
This is something you can do tonight.
C'est quelque chose que vous pouvez faire ce soir.
This is a ministry that must be fulfilled at our church if our church will grow in our love for one another.
C'est un ministère qui doit être fait dans notre église pour que notre église puisse grandir.
And so let's do it now.
Donc faisons-le maintenant.
Our Heavenly Father, we pray that out of your glorious riches, you may strengthen us with power through your Spirit in our inner being.
Notre Père Céleste, je te prie pour que tu nous fortifies à la richesse de ta gloire, pour que nous soyons fortifiés par ton esprit.
So that Christ may dwell in our hearts through faith.
Pour que Jésus rentre dans notre cœur à travers la foi.
That we may be rooted and established in his love.
Que nous soyons enracinés et fondés dans son amour.
That we may be strengthened to understand how wide and long and high and deep is his love together.
Pour qu'on soit fortifiés et pour qu'on soit capable de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ pour nous.
And to know his love that surpasses our knowing. That we may be filled to the measure of your fullness.
Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu.
In his name we pray. Amen.
En son Dieu, prions. Amen.